Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Le formidable pianiste qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires a été un soliste et un accompagnateur de choix tout au long du XXe siècle. Comme nombre de musiciens afro-américains de cette époque, son statut de virtuose fut quelque peu négligé par une société alors très rétive à reconnaître la valeur de ses plus talentueux artistes issus de la communauté noire. Cet instrumentiste discret n'en était pas moins un géant du jazz qui fit paraître des dizaines d'albums sous son nom et répondait avec grâce aux sollicitations de personnalités comme Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Sonny Rollins ou John Coltrane. Ce monsieur s'appelait Tommy Flanagan et aurait fêté son 90e anniversaire en cette année 2020. Nous avons décidé de lui rendre hommage cette semaine en écoutant sa musique et sa voix, puisqu'il nous accorda une longue interview quelques mois avant sa disparition, survenue en novembre 2001. Raconter l'histoire de Tommy Flanagan nous impose de remonter dans le temps à une époque où les big bands de l'air swing rythmaient le quotidien des citoyens américains. Nous sommes alors dans les années 30 et Thomas Lee Flanagan, dit Tommy, voit le jour à Détroit dans le Michigan. La future capitale de la soul music n'a pas encore fait sa révolution artistique et Motown Records n'existe pas dans le paysage musical de cette grande ville du nord des États-Unis. Pour autant, le petit Tommy a les oreilles déjà bien ouvertes et sa curiosité naïve nourrit un don encore immature pour l'harmonie et la mélodie. Il ne le sait pas encore, mais il a en lui des prédispositions pour l'art et la musique en particulier. C'est à l'adolescence que se révéleront ses talents d'interprète, comme il nous le confiait au crépuscule de sa vie. Rien ne m'a poussé à être musicien, ce fut un désir naturel. J'ai toujours aimé la musique, on en écoutait beaucoup à la maison quand j'étais jeune. J'ai donc été attiré par différents types de musique, principalement la musique classique et le jazz. J'ai suivi des cours auprès d'une professeure pendant 7 ans. Elle était très réputée dans le quartier, elle donnait également des leçons à mon frère aîné, mais elle n'enseignait pas le jazz, seulement le solfège, la théorie musicale. Cela se passait dans les années 40 et il n'existait pas encore d'école de jazz, encore moins pour les Noirs. Les ordinateurs, les synthétiseurs étaient absents du vocabulaire musical. Le seul instrument un peu évolué que j'ai découvert à l'époque, c'était l'orgamon. Je n'en ai jamais joué, mais il faisait partie de mon environnement sonore. Je comprends que des jeunes d'aujourd'hui s'intéressent aux nouvelles techniques et essayent d'en tirer profit, mais rares sont ceux qui parviennent réellement à exploiter ces outils de manière intelligente et inspirée. Quant à moi, je suis étranger à tout cela. Je préfère de loin le son naturel du piano.
I like the natural sound of a piano.
De 1956 à 1998, Tommy Flanagan n'a cessé d'enregistrer et de se produire aux quatre coins de la planète. Bien qu'il représentât pour nombre de ses contemporains et admirateurs un gardien de la tradition, il ne voulait pas être figé dans un genre, un style, une catégorie qui n'avait pas de sens à ses yeux. Les étiquettes sont uniquement des codes de classification pour l'industrie du disque. Certes, cela peut être utile pour faire connaître un genre musical ou un artiste, mais franchement, savez-vous définir la New Age ? Personne ne comprend rien à ces appellations. Même les labels s'y perdent, c'est vous dire. Personnellement, j'ai toujours joué une seule et même musique, qui avait l'avantage d'être constamment en avance sur son temps, et donc intemporelle. Il est impossible de dater la musique que je joue. On continue à jouer le répertoire de Jean-Sébastien Bach. Et pour vous, ce sera peut-être une découverte. Idem pour Beethoven ou Chopin. Je continue à m'enthousiasmer pour ces grands compositeurs. C'est bien la preuve qu'ils restent d'actualité. Je préfère écouter mes vieux camarades, Charlie Parker, Tad Dameron, Fat Jones, et même parfois mes propres enregistrements, plutôt que de me perdre dans les catégories imposées par les maisons de disques. Évidemment, quand on écoute cette musique et que l'on n'en connaît pas l'histoire, elle peut paraître savante et difficile d'accès. Mais Tommy Flanagan ne s'en souciait guère. Il faisait confiance à l'ouverture d'esprit de ses contemporains et considérait, à juste titre, que le frisson pouvait survenir à tout moment. Il suffisait seulement, à ses yeux, de se laisser porter par l'émotion. Si vous aimez un type de musique, vous finirez par le comprendre. Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur la partition d'une symphonie pour l'apprécier. Le jazz est une musique spontanée pour des auditeurs sérieux qui souhaitent s'enthousiasmer devant les prouesses de l'interprète. Et nous, musiciens, nous nous enthousiasmons également quand les spectateurs réagissent à nos performances. C'est un échange, un effort mutuel du public pour les musiciens et réciproquement.
For the listener.
Vous écoutez actuellement un extrait d'un concert exceptionnel que donnait Tommy Flanagan à Marciac, en France, en 1993, en compagnie d'un autre grand pianiste, le célèbre Hank Jones, lui aussi disparu aujourd'hui, mais qui fut un autre pilier du jazz afro-américain au XXe siècle. Hank Jones et Tommy Flanagan avaient de surcroît eu le privilège d'accompagner la grande Ella Fitzgerald à tour de rôle de 1947 à 1978. Certains enregistrements témoignent d'ailleurs de ces prestations fort prestigieuses.
We had a fight away. tell me what it is. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on?
Vous avez sans doute reconnu ce classique de Marvin Gaye, What's Going On, interprété par Ella Fitzgerald en 1973 à Carnegie Hall à New York, avec Tommy Flanagan au piano, preuve supplémentaire que ce personnage éminent dans l'histoire du jazz savait s'adapter à tous les genres et toutes les interprétations. De toute façon, prendre des risques, se renouveler est une exigence pour tout improvisateur de talent. L'écueil est de se répéter et de stagner. La nostalgie n'est jamais une source de progrès. Tommy Flanagan le savait, et même si les souvenirs d'un âge d'or lui trottaient dans la tête, car il en fut l'un des fervents contributeurs, il tenait à sans cesse se remettre en question pour ne pas être dépassé. Il est toujours possible de s'améliorer, c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu de nouveaux musiciens dans le jazz qui cherchaient sans cesse à se surpasser. Il est toujours temps de rectifier une erreur, même si cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Je dois cependant reconnaître préférer vivre au présent et avancer sans trop regarder en arrière, même si j'ai vraiment apprécié certaines périodes de ma vie, notamment le fait de jouer aux côtés de figures légendaires de l'histoire du jazz. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est de me retrouver face à Coleman Hawkins, qui était le père du saxophone ténor et qui m'a beaucoup inspiré. Ce fut un bon professeur et une de mes influences majeures. Son souci d'exceller à travers les années fut un exemple. Nous étions tous de jeunes musiciens à l'époque, mais j'étais sûrement le plus jeune de l'équipe. J'étais donc en admiration devant ces géants, et avoir la chance de jouer avec l'un d'eux était un rêve. Coleman Hawkins était une figure majeure, tout comme Art Tatum, que j'ai eu le privilège de voir sur scène, Bud Powell également. Par contre, j'aimerais rectifier une erreur. J'entends souvent dire que mon premier engagement a eu lieu avec Dexter Gordon en 1945. C'est impossible, je n'avais que 15 ans à l'époque, j'étais encore au collège. C'est une coquille qui n'a jamais été corrigée dans les livres d'histoire. J'ai dû forcément entendre sa musique quand j'étais gamin, mais je n'ai jamais joué avec lui. Cependant, j'étais à ses côtés lors de son ultime concert dans le Connecticut. Il terminait une tournée américaine, il venait de participer à un film d'un réalisateur français, Bertrand Tavernier. Il avait un planning de ministre. Et si nous devions donner un nom à sa musique, je dirais qu'il était l'un des artisans du bebop, cette forme de jazz inventée par Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Dexter disait que le bebop était la musique du futur. Ça en dit long sur la valeur de ce genre musical. Il croyait vraiment en cette définition. Et il avait raison. Cette musique a été jouée depuis des décennies et continue d'être jouée par les plus jeunes instrumentistes d'aujourd'hui. Parmi les héritiers de Tommy Flanagan, on peut citer Kenny Barone. Cet autre excellent pianiste, originaire de Philadelphie, naquit en 1943 et s'est très tôt inspiré du jeu de son aîné. Lors de notre dernière rencontre en 2016, il avait tenu à nous parler de son mentor, Tommy Flanagan.
Je n'ai jamais été un proche de Tommy Flanagan, mais j'avais entendu parler de lui quand j'étais au collège. C'est à ce moment-là que ce grand personnage est devenu l'une de mes influences majeures en tant que jeune pianiste. Il était constamment en tournée avec Ella Fitzgerald et il était assez difficile de l'approcher. Cependant, j'ai appris qu'il jouait régulièrement dans un club de Manhattan, le Bradley's, où je me rendais régulièrement. Finalement, j'ai pu discuter avec Tommy Flanagan. Son agent nous a alors proposé d'enregistrer un disque en duo. Je ne pouvais pas refuser une telle offre. Ce fut l'une des rares sessions d'enregistrement durant laquelle j'ai véritablement eu la frousse. Jouer avec l'une de ses idoles est plutôt effrayant, finalement.
To play with your somebody you idolize so much is a little scary, you know.
emprunté à Miles Davis, c'était Dig, extrait de Together, le fameux album que Kenny Barone enregistra avec son chaperon Tommy Flanagan en 1978. 20 ans plus tard, en 1998, une autre personnalité pleine d'admiration pour ce grand pianiste aura le privilège de partager plusieurs heures de studio avec son héros. Elle s'appelle Michelle Hendrix. Elle est chanteuse et voulait à l'époque saluer la mémoire de l'illustre Ella Fitzgerald, disparue quelques mois plus tôt. Logiquement, elle se tourna vers celui qui fut son pianiste pendant des années, mais Tommy Flanagan se fit désirer, Michelle Hendrix.
Quand j'ai contacté pour proposer le projet, elle a dit qu'il y a tant de monde qui propose la même chose à lui. Et lui, il avait décidé de ne pas faire un hommage à elle. Et donc, j'étais déçu, mais je réalisais, oui, elle a raison. Il n'y a pas 10 000 là dans le monde. Et environ un mois après, elle m'a appelé pour dire, écoute, finalement, j'ai décidé, j'aimerais bien faire un hommage. Et si je vais faire un hommage à elle, ça devrait être avec toi.
Quel honneur.
Donc on y va. Ah, je peux pas te dire, j'étais flattée, je croyais pas. Parce que aussi, j'ai toujours rêvé de faire un disque avec lui. Il est un des grands accompagnateurs du monde, donc j'étais doublement flattée.
Comment vous considérait-il ? Est-ce qu'il vous voyait un peu comme une héritière d'Ella Fitzgerald ?
Oui, mais ben, en gros, il a dit ça. Elle a dit, si je fais un hommage à elle, ça devrait être avec toi, parce que c'est évident que tu suis le chemin, quoi.
Ça devait être quand même assez impressionnant de se retrouver en studio avec Tommy Flanagan, qui a quand même été l'accompagnateur d'Ella Fitzgerald.
Oui, j'étais impressionné. Ah ben, j'étais entouré par les pros, hein, vraiment les magnifiques musiciens.
Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can't go on like this. Blossom out, I know, with somebody just like you.
Il aura fallu attendre presque 20 ans pour que l'on découvre cet enregistrement unique de Michelle Hendrix en compagnie de Tommy Flanagan. Cet album, A Little Bit of Ella, Now and Then, paru en 2016, reçut le prix du meilleur disque de jazz décerné par l'Académie du Jazz à Paris. En écoutant ces séances de studio, on réalise à quel point Tommy Flanagan maîtrisait l'art de l'improvisation. Quels que soient les changements de tonalité, de rythme, d'harmonie, il parvenait toujours à s'adapter.
Mais ça, c'est un des exemples qui montre comme Tommy Flanagan était un accompagnateur au pair, parce qu'elle écoute la chanteuse. Et ça, c'est rare, hein, malheureusement. C'est très différent d'être un bon pianiste et d'être un bon accompagnateur. Et lui, elle était les deux.
Et à un moment donné, dans votre scat, vous partez dans quelques improvisations,
oui,
il essaye de vous suivre.
Oui, je partais dans un gamme un peu alternative, quoi, et ça a pris quelques mesures, mais hop, il a commencé de me suivre. Et moi, j'avais changé déjà. Donc mais j'étais bien contente d'entendre qu'il a essayé de me suivre.
Sweet and lovely, lady be good, oh lady be good to me. Well, I'm so awfully misunderstood, oh lady, be good to me. I'm all alone in this big city, well, hell, won't somebody please have pity. Just lonesome babe, babe in the wood, oh lady, be good to me.
Depuis le début de cette émission, nous essayons de vous dessiner le portrait d'une figure majeure de l'épopée des musiques noires, dont le nom ne saurait être effacé des livres d'histoire. Mais pour comprendre la place qu'occupe ce personnage dans la légende du jazz, écoutons la très respectueuse description de Michelle Hendrix.
Oh, il était un maître. Elle était super gentille. Elle était une accompagnateur hors pair, quoi. Elle était une des musiciens qui écoutait. On réalisait quand on chantait ou quand on improvisait avec lui derrière, on était toujours conscient qu'elle écoute. Parce que tu fais un petit truc et hop, elle était là pour donner une réponse. Et ça, c'est un vrai plaisir.
Qu'est-ce que vous avez appris au contact de Tommy Flanagan?
J'ai appris de ne pas avoir autant de doutes que j'avais. Vraiment, j'étais tellement flattée qu'elle voulait faire ce disque avec moi. Parfois, je n'osais pas, surtout avec les arrangements, parce qu'il y a quelques-unes qui ne sont pas typiques. Et j'hésitais de proposer les choses différentes, un peu funk ou un peu reggae, un peu... Elle dit non, vas-y. You know, bon, on va essayer. Elle était prête à essayer.
Vous pensiez qu'il était trop dans la tradition pour accepter justement ce type d'arrangement reggae, pop ou funk?
Oui, aussi j'avais peur qu'elle va penser que c'était mal respectueux, quelque chose, you know. Mais pas du tout. Elle était tout près de au moins essayer. Elle dit, écoute, normalement, je ne joue pas cette style, mais je vais essayer. Et finalement, elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée. Il y a les moments où elle était censée de faire juste une petite chorus. Elle a pris 3 ou 4. Donc, c'est une bonne leçon de suivre tes instincts.
Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven. The moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, heaven. How near, how far, darkest night would shine. If you would come to me soon, until you will be still my heart. How
Michel Hendrix peut légitimement s'enorgueillir d'avoir enregistré un album entier avec Tommy Flanagan. Ce grand artiste a marqué une génération entière de musiciens et d'amateurs de belle musique. On est d'ailleurs en droit de se demander si la relève est assurée. La disparition progressive des virtuoses d'antan nous interroge sur la valeur des pianistes actuels. Ont-ils le toucher, la maturité, l'expérience que requiert l'excellence pianistique? Tommy Flanagan s'inquiétait du peu d'intérêt des jeunes pour son art. Si vous m'interrogez sur les jeunes musiciens, je préfère m'abstenir de vous répondre. J'ai trop de respect pour mes héros, des gens comme Art Tatum, Bud Powell, Fats Waller. Leur musique ne s'est jamais démodée. Pour moi, c'est toujours une source d'inspiration. À mes yeux, tout a été joué. Il est impossible de surpasser ces maestros. J'attends vraiment le jour où nous découvrirons un maître, un révolutionnaire. Mais pour le moment, je ne le vois pas venir. Soyons patients. Il surgira peut-être, mais j'en doute. En tout cas, je ne serai plus là pour le voir ou l'entendre. Il peut y avoir quelques nuances mélodiques, rythmiques ou harmoniques qui donnent la sensation qu'il y a du neuf par rapport à la génération précédente. Mais ce ne sont que des ajustements, car les jazzmen aujourd'hui ont une excellente technique, mais si peu de sensibilité, de personnalité. Pour moi, le dernier grand innovateur dans l'art du piano jazz, ce fut Errol Garner, et puis il y eut Bud Powell. Depuis, je n'ai rien entendu qui fasse progresser le jazz.
Progressing since that, I haven't heard it, you know.
Tommy Flanagan naquit le 16 mars 1930. Il aurait eu 90 ans cette année. Certes, ses propos, recueillis il y a 20 ans, sont aujourd'hui contredits par l'avènement d'une génération d'instrumentistes vraiment talentueux, les Christian Sens, Alfredo Rodriguez, Harold Lopez Nussa, Roberto Fonseca, Thomas Senko, Grégory Privat et quelques autres qui ont su s'inspirer du patrimoine de leurs aînés pour imprimer leur identité sonore dans la grande et riche histoire du jazz. Mais que le présent ne nous interdise pas de célébrer les icônes du passé. Tommy Flanagan fut sans nul doute un pilier de la culture afro-américaine et un modèle pour nombre de ses disciples. Note de Giant Steps par Tommy Flanagan en 1982 en hommage à son ami et regretté partenaire John Coltrane avec qui il enregistra l'album original Giant Steps en 1959 comme vient de me le souffler Nathalie Laporte, réalisatrice de cette émission. C'est ainsi que s'achève cette épopée pianistique. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.